Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche. Il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, et comme chaque dimanche, nous aurons de l'actualité, nous aurons de la culture et nous parlerons également de notre communauté, la communauté francophone en Australie. Mais pour débuter cette émission, eh bien passons à notre personnage de la semaine, l'actualité vue par une des personnes qui a marqué cette semaine.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Un autre personnage de la semaine, ambassadrice des chimpanzés, la primatologue britannique Jane Goodall, est décédée mercredi à l'âge de 91 ans. Elle a changé le regard de l'homme sur sa place dans la nature et inlassablement défendu la cause environnementale. François Vantôme revient sur le parcours de Jane, un parcours totalement atypique.
Jane Goodall est née à Londres le 3 avril 1934. Secrétaire de formation et naturaliste autodidacte, elle se rend pour la première fois en Afrique, invitée par des amis propriétaires d'une ferme au Kenya. En 1957, elle rencontre le conservateur du musée national kényan, le célèbre paléanthropologue Louis Leakey. Il lui fait une proposition audacieuse, aller observer des chimpanzés au bord du lac Tanganyika, dans un environnement qui rappelle celui de nos lointains ancêtres. Grâce à sa persévérance, Jane Goodall parvient à être acceptée et devient presque l'une des leurs. Les scientifiques de la vieille école sont choqués à la lecture de ses premiers rapports où elle parle de David Barber Grice, Flo, Mike, McGregor et d'autres, au lieu d'individus identifiés par des sigles et des numéros. Elle décrit en détail leur société et leurs rapports complexes et découvre qu'ils ne sont pas végétariens, mais omnivores. C'est pour son étude de ces chimpanzés que Jane Goodall s'est fait connaître. Dans les années 60, la Britannique, qui n'avait qu'une vingtaine d'années, commence à les étudier dans la réserve de Gombe en Tanzanie. Elle révèle alors que les chimpanzés utilisent eux aussi des outils, en l'occurrence une tige pour attraper des termites, une spécificité qu'on ne pensait alors n'être l'apanage que des humains. Elle documente également leur comportement de leur recours à la violence, à leur deuil après la mort d'un des leurs. Ces découvertes chamboulent la compréhension des comportements des animaux et redéfinissent la frontière entre l'homme et les autres espèces.
Elle a un parcours académique insolite et réplique certains comportements qu'elle observe dans sa vie privée, notamment en ce qui concerne la manière d'élever son fils.
Elle rejoint l'université de Cambridge et obtient en 65 un doctorat en éthologie, malgré l'absence d'un diplôme universitaire préalable. Seules 7 personnes avaient suivi ce chemin auparavant dans cet établissement. En 64, elle épouse le photographe Hugo van Leeuwenhoek, qui illustre son travail pour Life et National Geographic. Ils ont un fils, Hugo, surnommé Grub. Chez les chimpanzés, le lien mère-enfant est très fort. La mère est constamment avec l'enfant et j'ai élevé Grub de cette façon. Jusqu'à ses 3 ans, je ne l'ai jamais laissé seul une journée entière. Son second mari, Derek Bryson, directeur des parcs nationaux tanzaniens, entre dans sa vie en 73 et meurt 7 ans plus tard d'un cancer.
Grande figure de la science du XXe siècle, maintes fois distinguée, Jane Goodall devient dans les années 70 une activiste de la nature.
Dès 77, elle crée un institut pour gérer en Afrique des centres d'accueil de chimpanzés issus du braconnage. Puis le Chimpan Zoo, programme destiné à améliorer les conditions de vie des primates captifs. Et en 91, Roots and Shoots, racines et pousses, destinées à sensibiliser les jeunes à l'environnement. En 2022, Mattel sort une Barbie à son effigie. Elle dira « Je suggère depuis longtemps que les filles ne veulent pas seulement être des stars de cinéma. Beaucoup d'entre elles, comme moi, veulent être dans la nature à étudier les animaux. » Dans une tribune du Monde écrite pendant le Covid-19, elle établit un lien entre la pandémie et notre manque de respect pour le monde naturel. Végétarienne convaincue, elle dénonce sans relâche les atteintes à la biodiversité. Nous savons ce que nous devons faire, nous avons les outils nécessaires, mais nous nous heurtons à une pensée à court terme du gain économique, contraire à la protection à long terme de l'environnement. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a déclaré « Elle laisse derrière elle un héritage extraordinaire pour l'humanité et notre planète ».
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
C'était La pluie, chanson de Louane, en ce dimanche sur Radio SBS. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
C'est une première mondiale et c'est un biologiste marin originaire de Nouvelle-Calédonie qui en est l'auteur. Hugo Lassos, qui travaille pour l'université de la Sunshine Coast, a en effet filmé il y a quelques semaines pour la première fois dans l'histoire des requins léopards, une espèce menacée de disparition, en train de s'accoupler. Il nous a accordé quelques minutes pour nous parler de cette incroyable observation. Ces requins léopards, d'après ce que j'ai compris, en tout cas d'après les articles que j'ai lus dans la presse, jusqu'à présent, on n'en avait jamais observé, en tout cas enregistré d'une manière ou d'une autre, en train de s'accoupler. Et c'est vous qui avez été le premier à le faire.
Ouais, c'est ça. En fait, on travaille sur ces requins depuis quelques années maintenant. Et en fait, dans un de nos suivis, on a pu observer une reproduction de requins léopards. Et c'est la première fois que ça a pu être enregistré et décrit scientifiquement dans le monde.
C'est une excellente nouvelle, parce que non seulement donc, vous avez réussi pour la première fois à filmer ce type de requin en train de s'accoupler, c'est d'autant plus une bonne nouvelle qu'ils s'accouplent que j'ai cru comprendre qu'ils étaient considérés comme en danger par l'Union internationale pour la conservation de la nature.
Ça, exactement. En fait, c'est comme beaucoup d'espèces de requins, c'est aussi une espèce qui est considérée comme en danger et classée comme ça par la liste rouge de l'IUCN. Et donc, en fait, ce genre d'observation, comme tout le reste de notre étude, vise vraiment va pouvoir en tout cas aider à mieux comprendre le comportement et l'écologie de ce requin et informer les mesures de conservation qui peuvent être mises en place dans les régions où ils en ont besoin.
Et alors, dans votre vidéo, ce qu'on voit, c'est pas un mâle et une femelle, mais c'est deux mâles sur une femelle. Est-ce que c'est un fait du hasard ou les goûts de ces requins en particulier, ou est-ce que c'est la méthode classique de reproduction chez cette espèce ?
Chez les requins, en fait, les mâles vont essayer d'attraper une femelle, donc ils la mordent sur une de ses nageoires pectorales pour la maintenir et ensuite cherche à s'accoupler. Et en fait, ça arrive de voir plusieurs mâles sur une même femelle, peu importe l'espèce de requin en fait.
Ok. Et alors, vous êtes en ce moment en Nouvelle-Calédonie pour étudier ces requins de plus près. Et en gros, vous avez eu un peu l'instinct que il allait se passer quelque chose. Vous étiez dans l'eau, mais vous avez dû attendre un certain temps avant d'observer enfin et de pouvoir filmer la reproduction.
C'est ça. Alors, pour remettre dans le contexte, en fait, on fait un suivi sur un site c'est un site où les requins sont observés en agrégation à une certaine période de l'année. Et donc, on fait un suivi donc avec l'équipe de l'Aquarium des Lagons toutes les semaines. On essaie d'y aller au moins une fois par semaine pour voir le nombre de requins et voir comment ça évolue au fil de l'année. Et dans ce suivi, donc, on fait un tour de ce site et en fait, ce jour-là, on est arrivé sur le site et j'ai trouvé les requins comme ça avec au fond. Posé au fond, il y avait les deux mâles qui attrapaient la femelle. Et à partir de là, moi, je savais que ça avait enfin, que ça allait peut-être déboucher sur quelque chose où il y aura la reproduction, en tout cas, puisque les deux mâles qui attrapent la femelle comme ça, c'est pour se reproduire. Et donc, j'ai attendu jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, en fait, que soit les mâles se séparent avec la femelle et tant pis, il se passe rien, soit qu'il se passe quelque chose. Et donc j'étais prêt, assez excité qu'il se passe quelque chose. Et au final, on avait les GoPros et tout ça de prête. Et au bout d'une heure, plus d'une heure, une heure et demie, ils ont enfin décidé à bouger. Et en fait, ça s'est passé quoi. Le premier mâle s'est reproduit avec la femelle. Et ensuite, c'est l'accouplement du deuxième mâle.
Ok. Alors bon, votre vidéo, elle a pas mal tourné aussi parce que bah ça fait un peu sourire le fait que
C'est ça, justement.
qu'il soit trois. Mais scientifiquement parlant, qu'est-ce que ça va apporter le fait que vous ayez pu filmer cet accouplement? Pareil, j'ai lu des articles qui expliquaient que ça allait pouvoir faire avancer les choses en matière de protection de cette espèce qui est donc menacée. De quelle manière, en fait?
En fait, c'est vraiment la reproduction des requins en général. Il y a pas mal de mécanismes anatomiques et biologiques, donc on n'est pas encore vraiment. On comprend pas tout. Donc en fait, plus il y a des observations, plus on peut recouper avec ce qui a été observé sur d'autres espèces et dire est-ce que c'est similaire, est-ce que c'est différent. Et donc là, c'est vraiment dans le détail anatomique et biologique. Pour cette espèce-là en particulier, on pense en tout cas que la femelle se reproduit avec plusieurs mâles pendant une saison de reproduction. Là, on le confirme et ça permet de savoir comment ça se passe dans la nature pour pouvoir le reproduire au plus proche pour l'assimilation artificielle. Donc, est-ce qu'on fait avec l'apport de plusieurs mâles ou de un seul mâle pour la femelle? Est-ce que enfin, voilà, tout ça a de l'importance pour connaître la reproduction d'animal, si vous voulez, ça a plus d'importance pour ensuite mieux pouvoir le protéger et tout ça.
Ok. Et alors, quelques mots sur vous. Donc, vous avez expliqué que vous êtes actuellement à l'université de la Sunshine Coast, mais je crois que vous êtes originaire de la Nouvelle-Calédonie, c'est ça?
C'est ça, moi je suis né et j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, donc j'ai fait toutes mes études. Enfin, j'en ai fait une partie en France, une partie en Australie, ensuite j'ai fait mon doctorat en Nouvelle-Calédonie. Là, ces dernières années, c'était un projet qui était en partenariat avec les Australiens, mais surtout un projet qui a été lancé par l'Aquarium des Lagons en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est avec eux que je travaille depuis des années. Avant, j'ai travaillé sur les Raymontas avec l'Aquarium des Lagons aussi. Pour cette étude-là, en fait, j'ai travaillé avec l'Aquarium des Lagons et les employés par l'université de la Sunshine Coast en Australie et étudié les requins léopards en Nouvelle-Calédonie.
Ok. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter sur tout ça? Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas pensé à vous demander qui, selon vous, a quand même de l'importance?
Ouais, alors en fait, pour remettre un peu dans le contexte de cette étude, comme j'ai dit, c'était un projet de l'Aquarium des Lagons en Nouvelle-Calédonie, en partenariat avec l'université de la Sunshine Coast. Mais c'est aussi un projet qui s'inclut dans un plus grand projet international qui s'appelle ReSharc, et qu'en fait, qui vise à réintroduire les requins léopards dans des zones où ils ont été complètement proche de l'extinction, en tout cas. Ils ont commencé par Raja Ampat et le but c'est d'étendre le projet. Donc voilà, c'est sur pour ce projet-là qu'on travaille.
Ok, d'accord. Ben merci beaucoup Hugo, et puis ben bonne continuation dans vos recherches. J'espère que vous aurez l'occasion de voir d'autres requins léopards s'accoupler, et surtout d'en voir de plus en plus, puisque ben, le problème c'est bien ça, c'est qu'il y en a de moins en moins. Merci encore, et puis ben ouais, très bonne journée et à
Merci
bientôt.
beaucoup. Merci.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, dans les studios à Melbourne, on a le plaisir de recevoir Pauline Maudit, enfin en chair et en os. Ça fait un moment, Pauline, qu'on s'était pas vu.
Ça fait un petit bout de temps.
Hein, on va pas dire les années, mais ça se compte en années. Ça se compte en années. En tout cas, Pauline, merci d'être de retour dans un studio à SBS où vous avez enregistré une chanson pour nous qu'on diffusera tout de suite après cet entretien. Ce Melbourne Fringe, on en a parlé. Ça fait un petit moment qu'on se parle là-dessus. Ça y est, ça commence. C'est débuté, si vous écoutez cette interview dans le courant de la semaine, en fin de semaine. C'est 5 jours de résidence. C'est beau, c'est bien.
C'est bien, c'est une belle première pour nous pour le Melbourne Fringe parce que en fait c'est les meilleures conditions dans ce qu'ils appellent le Festival Hub à Trades Hall et donc c'est vraiment que notre spectacle a été choisi pour en faire partie et ce qui est vraiment super, c'est un honneur pour nous.
Ouais, tout à fait, parce que ça, le Fringe, c'est à la fois des spectacles entre guillemets officiels et des spectacles officieux entre guillemets qui font partie du groupe mais qui font partie en tout cas du Fringe, mais qui ne sont pas dans l'entrechambre du Fringe. Là, vous êtes au Trades Hall, vous êtes au sein du sein du sein du sein du Fringe.
On est vraiment au milieu. Allez.
Disons-le. C'est un beau festival, le Fringe, mais pour vous, il y a une carrière qui suit son petit bonhomme de chemin, au final.
Mais c'est vrai que des fois, on ne réalise pas à quel point on avance. C'est bien quand on retourne quelque part ou quand on revoit des gens comme ça qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années, c'est vrai que ça nous aide à faire le point aussi. C'est très facile. Le milieu de la culture et de la musique, c'est pas toujours très simple. On travaille quand même beaucoup.
Surtout en Australie.
Voilà, exactement. Puis on est loin de tout. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir faire le point et de se dire, bah, quand même, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, Christophe, on en a fait des choses.
Ouais, tout à fait. Bah, vous et moi, la planète a fait plusieurs tours, en tout cas, sur elle-même.
Oui.
Mzaza, pour vous, c'est quoi? On va entendre dans la chanson, c'est vraiment, c'est un son à part, Mzaza.
C'est un son à part et ça c'est pas fait de façon, vraiment... On n'a pas fait exprès d'avoir ce son. Ça a évolué sur 21 ans maintenant quand même.
Ouais.
Comme tu le sais, mais peut-être pas vos auditeurs, quand on a démarré il y a 21 ans, c'était un son un peu différent. En fait, moi, je recherchais des gens avec qui je pouvais écrire et retrouver un peu la musique ou les musiques avec lesquelles j'ai grandi en tant que fille qui a grandi à Paris, mais de famille aussi d'Espagne et du Maghreb. Donc, il y avait plein de musiques là qui me passionnaient beaucoup. Et finalement, j'ai rencontré Greta, qui est la violoniste, et d'autres musiciens. Et puis finalement, on s'est aussi mis à collaborer avec des musiciens des Balkans. Et on a trouvé un son bien à nous, finalement, qui est des nouvelles compositions, souvent en français, parfois en anglais, avec des influences méditerranéennes et aussi des Balkans. Ouais.
Et il y a eu des résidences en Europe, il y a eu des voyages en Europe, enfin toutes ces cultures, elles sont aussi mixées dans ou mélangées dans ce que représente Mzaza.
C'est ça, et c'est un peu quelque chose qui nous a empêché en fait de revenir à Melbourne, c'est qu'on était très basé sur l'Europe. Jusqu'à Covid, on va dire. Après, donc, on a fait deux grosses tournées là-bas. Et depuis, moi, j'y suis retournée toute seule pour faire des collaborations avec, par exemple, l'Orchestre International du VTEX, qui est un orchestre franco-balkan aussi, qui est basé juste à côté de Lille, et qui tourne beaucoup. Donc, j'ai travaillé un peu avec eux, j'ai fait de la composition avec eux, et avec d'autres musiciens là-bas. Il y a un musicien tchèque aussi, Martin Vejvoda, avec qui on a écrit la chanson Lyra, qui était sur notre dernier album, The Birth and Death of Stars. Donc, on essaye de garder un peu quand même ce rattachement, on va dire, aux sources et aux musiques qui nous passionnent, mais tout en créant notre propre son qui a, je pense, est propre à nous parce qu'on l'écrit de loin, on est souvent des immigrés ou des enfants d'immigrés qui sont arrivés en Australie et donc les choses se transforment comme on le sait quand on émigre, comme la cuisine.
Ouais.
Donc finalement c'est ça un peu notre
histoire. Ce qui est intéressant, c'est la fusion entre, vous parlez du, il y a le côté un peu espagnol, on le sent, le côté espagnol maghreb, mais il y a aussi beaucoup de l'ex-Europe de l'Est, on sent qu'il y a les Balkans, on sent je me trompe ou c'est ça, il y a vraiment une mixité entre ces deux antipodes de l'Europe?
C'est exactement ça. Pour nous, il y a pas mal de chansons sur l'album de Birth and Death of Stars que j'ai écrit avec notre contrebassiste bosnien à ce moment-là qui s'appelle Goran Gajic. Donc c'était en fait mon mélange à moi qui se mélangeait avec ses influences à lui. C'est ce qui donne un peu notre son, mais c'était déjà une passion qu'on avait et des choses qu'on a étudiées depuis longtemps, la musique balkane et la musique du Moyen-Orient.
Ça s'étudie, ça. C'est parce que je fais l'avocat du diable, mais il y a une vraie culture quand même de la musique balkane.
Absolument, ça s'étudie et c'est énorme. Hein. Donc ça, c'est des années d'études, mais il y a aussi des écoles très spécialisées. Par exemple, plusieurs des membres de MZAZA ont voyagé jusqu'en Crète pour faire une école qui s'appelle Labyrinth Music School et qui justement est passionnée des musiques balkanes et modales. Donc c'est tout ce qui est les musiques modales, c'est tout ce qui ont des gammes différentes, on va dire, par rapport à la musique occidentale. Et donc moi j'y suis allée, j'ai étudié la musique crétoise. Greta, elle a étudié en Iran. D'ailleurs, elle joue un instrument qui s'appelle le charkeman, mais qui est très proche du kemanche iranien. Donc, elle a étudié la musique iranienne aussi et la musique quand elle est allée à Labyrinthe d'autres pays. Donc, on a tous en fait fait des études, on va dire très très pointées, très niches par rapport par rapport à ce qu'on voit souvent en Australie.
Le Trades Hall, c'est un haut lieu de la contestation sociale à Melbourne. C'était l'endroit où les syndicats, les unions se retrouvaient. Enfin, il y a tout un côté populaire attaché au Trades Hall. Et votre musique, elle est aussi, c'est une musique populaire d'un certain partie de l'Europe, mais c'est une musique très populaire. C'est pas forcément une musique qui est élitiste. C'est une musique, voilà, le mot populaire, mais au bon sens du terme.
Oui, je pense que c'est un bon endroit pour nous. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est que ce qui me passionne en fait dans la musique qu'on appelle folk finalement, et ça veut dire beaucoup de choses. Mais à la base, la musique folk, c'est pas obligé d'être joué avec une guitare et une voix. Hein, c'est de la musique populaire finalement. C'est les histoires du peuple et des gens. Et ça peut être, ça peut avoir plein de sonorités différentes finalement. Mais c'est ce qui nous passionne aussi dans la musique folk.
On peut s'attendre à quoi alors justement sur cette mini semaine à Melbourne?
Et ben, c'est tout un spectacle. Hein. Donc, on va dire, c'est pas juste un concert, déjà, The Birth and Death of Stars. C'est vraiment entre le théâtre et la musique. Il y a donc des histoires, mais qui sont racontées un peu par métaphore, qui sont racontées de façon visuelle aussi, avec des projections d'animation, collage que j'ai développé avec une artiste finlandaise, Laura Matikainen, qui est super. Et j'ai aussi travaillé avec un metteur en scène, Benjamin Napton, qui travaille beaucoup avec la compagnie de cirque contemporaine Circa. D'ailleurs très connu en France aussi. Et donc il y a un vrai jeu de lumière et il y a trois actes en fait, c'est une histoire en trois actes qui joue beaucoup sur la mythologie grecque, sur l'astronomie, mais finalement qui nous aide à réfléchir un peu sur la condition humaine et ce qui nous emmène, ce qui nous met en harmonie avec nous-mêmes, avec les uns les autres et avec le monde autour de nous, mais aussi la façon dont on peut peut-être des fois se regarder un peu trop nous-mêmes ou se pencher un peu trop vers notre nombril et perdre cette perspective et finalement créer nos propres problèmes.
Vous sentez que vous avez gagné en expérience, Pauline, parce qu'en 21 ans quand même de la tournée, ça tire un peu sur la couenne, si je peux me permettre.
Ouais, c'est clair, quand je pense à ce que je faisais quand je débutais, et que c'est marrant parce qu'en même temps quand on débute aussi on sait pas ce dont on est pas capable, et donc on se lâche et on n'a pas vraiment de limites, et donc j'essaye quand même de retrouver des fois de repuiser là-dedans en fait pour prendre des risques, parce que des fois quand on a l'impression d'avoir fait beaucoup de choses, on a des attentes de soi-même et de son travail en fait, et ça peut nous empêcher de se lâcher, je pense, et donc j'essaye vraiment de retrouver ça. Mais oui, c'est clair. Enfin, on a fait des belles choses. Maintenant, je fais beaucoup de choses en solo aussi. D'ailleurs, je vais lancer mon premier album solo en 2026, ce qui est super. On a reçu des prix. Enfin, on a eu des expériences fantastiques. On a pu voyager et partager notre musique et nos valeurs avec des gens qui aussi partagent leurs histoires avec nous, et finalement c'est pour ça qu'on fait ça.
Ouais, absolument. En tout cas, c'est au Trades Hall, c'est sur le Fringe Festival. Où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations ou des billets, ou si on veut?
Alors, mzaza.com, mzaza.com, ou sinon si les gens regardent sur Google mzaza et Melbourne Fringe Festival, vous allez nous trouver.
D'accord. Alors parlez-nous juste avant qu'on joue la chanson, on va écouter quoi là?
Alors ça, c'est une grande première, hein, parce que cette chanson, je disais à Christophe avant qu'on commence à parler, qu'on l'a seulement jouée en live peut-être deux ou trois fois.
Et en live ici.
Et voilà, et c'est la première fois qu'on l'a jouée à la radio, évidemment. Donc c'est une chanson qui s'appelle Battle of the Birds, et je pense que c'est un bon moment pour cette chanson, parce que finalement, le refrain de cette chanson, c'est nous on est tout amour, le monde est fou, mais nous on est tout amour, ce n'est pas nous. Et le monde est fou et les gens se gueulent dessus justement en ligne tous les jours sur Facebook. Et là, c'est un peu une parodie. Ça parle de deux oiseaux qui sont en train de se prendre la tête sur rien. et qui s'entendent pas l'un et l'autre. Et c'est un peu une petite métaphore pour les humains, en fait.
Réfléchissez. Merci, Pauline.
À très bientôt.
Je sens ta peur quand je te picote jusqu'à l'épuisement, ma cocotte. Le monde est fou, ce n'est pas nous. Nous on est tout amour. Le monde est fou, ce n'est pas nous. Nous on est tout amour, nous on est tout amour.
Zaza avec cette chanson Battle of the Birds qui a été enregistrée, et oui, dans les studios même à SBS. Battle of the Birds, M. Zaza en live. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Je suis au téléphone avec Bertrand Belin. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Et pouvez-vous me parler un peu plus de votre album, de votre dernier album, Cap Waller?
Bah, c'est un album comme celui qui a précédé, que je suis allé enregistrer à Sheffield, dans le nord de l'Angleterre, avec un producteur qui s'appelle Mark Sheridan, avec lequel j'ai travaillé. C'est un album qui est un peu plus pop que mes précédents disques, mais enfin qui est quand même, qui reste quand même un album qui me ressemble, dans le sens où il est assez minimaliste, bien qu'il soit un peu plus dansant que les précédents, et auquel, comme d'habitude, j'ai apporté le plus grand soin, en matière des timbres, d'instruments. La production est assez le résultat d'un travail minutieux qui a été aussi très très excitant à produire. Et sur scène, c'est un album aussi qui se transforme en un répertoire beaucoup plus sonore, sonique, rock que les précédents, on peut dire. C'est un album qui met en scène souvent dans les textes des très peu de personnages auxquels il arrive des choses qui semblent être des choses de rien, mais qui, par l'insistance de la répétition des mots, finissent par apparaître aux éditeurs comme des curiosités sur lesquelles il est intéressant de se pencher.
Vous semblez beaucoup aimer les mots. Bon, vous écrivez, vous écrivez de la musique aussi. Bon, des livres. Récemment, en octobre, il y a le livre Littoral qui a été publié. Est-ce que vous pouvez m'en parler?
Oui. Oui, bien sûr. C'est un roman assez bref qui est paru aux éditions POL, comme mon précédent roman, et qui s'appelle Littoral et qui raconte la vie de trois pêcheurs et d'une femme sur le bord de la mer, dans une région qu'on pourrait assimiler à la Bretagne, et qui sont pris dans la grande histoire, c'est-à-dire dans une période trouble de leur pays, qui traverse un épisode d'occupation. Et on va suivre ces trois marins et cette femme d'assez près pour découvrir ce qui les lie particulièrement et ce qui va surtout conduire à les délier. Voilà, c'est un roman que je pourrais qualifier, que j'aime bien qualifier d'épouvante, un peu, d'épouvante maritime.
Et bon, on disait, vous êtes chanteur, vous êtes musicien, écrivain sous différentes formes, vous réalisez aussi vos vidéoclips, vous touchez vraiment à plusieurs formes d'art.
Oui.
Est-ce que c'est important pour vous de vous exprimer de toutes ces manières-là qui sont différentes?
Oui, c'est assez important. C'est-à-dire que je fais pas autant de différence, moi, vu de l'intérieur que vu de l'extérieur. On se rend bien compte que c'est des disciplines différentes, mais moi, de l'intérieur, ça fait appel aux mêmes endroits sensiblement. Et du coup, si vous voulez, il me semble, moi, que la musique, l'écriture et l'image, c'est des états différents d'une même chose. Hein. C'est comme l'eau, la glace et la vapeur, quoi. C'est la même chose, sauf que c'est dans un état différent. Donc ça demande des spécialisations et des expertises différentes. Mais enfin, comme je ne me qualifie d'expert d'aucune manière dans aucune discipline, je peux m'adonner horizontalement à ce plaisir. Sans avoir l'impression, moi, de passer d'un monde à l'autre, quoi. Moi, le bleu, il existe quand je fais de la musique, les verticales, les horizontales et le bleu et le rouge et le jaune existent, quoi. Quand je fais de la musique, c'est absolument indiscutable pour moi. Et ces éléments qu'on retrouve dans d'autres formes d'art, qui sont associés en général plutôt aux arts graphiques, mais vous voyez, il y a des ponts et des liens qui sont très évidents.
Est-ce que vous travaillez sur plusieurs projets artistiques en même temps ou c'est un à la fois?
Non, c'est souvent plusieurs en même temps. Plusieurs en même temps. Parce que la vie est brève, hein, quand même. Et puis, je ne suis pas un si grand travailleur que ça. Vous voyez, j'ai plein de moments où je rêve un petit peu, quand même. Donc, je suis toujours obligé de travailler en même temps. En ce moment, je travaille à l'écriture d'un nouveau roman, mais je travaille aussi à l'écriture de musique de film que je suis en train de faire en ce moment pour un metteur en scène français qui s'appelle Dominique Choisy. Je viens de finir aussi une musique de film de metteur en scène qui s'appelle Blandine Lenoir. Pendant ce temps, j'écris ce roman, puis en même temps, je suis en tournée. voilà, ça se passe comme ça, ma vie se passe comme ça depuis des années, quoi. Mais j'ai pas l'impression de, si vous voulez, c'est pas en même temps, puisque c'est un jour c'est ça, quoi. Je m'arrête pas 6 mois pour écrire un livre, j'arrête pas de faire de la musique pendant 6 mois ou 1 an, parce que ça, je pourrais pas me le permettre.
Vous semblez bien occupé quand même, vous donnez l'impression de travailler beaucoup quand on vous entend.
Oui, mais en ce moment, je travaille plutôt beaucoup, faut bien le reconnaître. Je travaille tous les jours, même tous les week-ends. Enfin, je travaille tous les jours, j'arrive pas à m'arrêter. Parce que c'est une période aussi qui est assez excitante pour moi, parce que puis il fait gris et froid dehors l'hiver, ça m'aspire bien. Puis il y a ces voyages aussi. Là, on jouait en Algérie, à Alger, il y a 4 jours, là, qui sont aussi des voyages qui sont très inspirants. C'est, vous voyez, c'est excitant, quoi. Puis les fêtes de Noël aussi, les fêtes de fin d'année m'ont toujours aussi beaucoup inspiré.
Est-ce que vous allez prendre du temps quand vous êtes en Australie, justement, pour vous promener, peut-être vous être inspiré par le pays?
Oui, j'espère bien. On a la chance d'avoir 2-3 jours de vacations, là, en Australie, ce qui n'arrive quasiment jamais quand on fait des tournées. On a bien l'intention d'en profiter au maximum, de découvrir, de prendre la température autant qu'on pourra le faire, c'est-à-dire on n'aura pas l'occasion de visiter l'Australie, bien sûr, qui est un grand pays, mais on va essayer de prendre la température des lieux au maximum, oui. C'est de comprendre dans quel monde vous vivez là-bas. Voilà, c'est ça qu'on vient faire. On est un peu des explorateurs venus de loin, un peu des aliens.
Merci beaucoup, Bertrand.
Ben, c'est très gentil, j'étais content de parler avec vous, je souhaite une bonne soirée. Et quant à moi, je vais commencer ma journée puisqu'il est 10h30 du matin.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question. Palerme, pétrole, lassé des belles paroles, il frissonne. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs dedans.
Voix si typique de Bertrand Belin en ce dimanche sur Radio SBS. L'inconnu en personne, c'est le titre de la chanson. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, deuxième partie concernant l'un des tout premiers premiers ministres australiens, Alfred Deakin. On s'intéresse dans cet épisode à la partie de sa vie durant laquelle il a été au gouvernement et même plus tard premier ministre, une période durant laquelle il a mis en place énormément d'institutions qui sont pour la plupart toujours en service aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors donc, vous l'avez bien expliqué, cette fédération finale ne se construit pas contre l'Empire britannique, elle finit par voir le jour le 1er janvier 1901, et à cette occasion, ce n'est donc pas Deakin, mais Barton qui devient le premier Premier ministre. Néanmoins, Alfred Deakin fait partie de ce premier gouvernement en tant que Attorney General, donc c'est en gros le ministre de la Justice, et à ce titre, il fait voter l'un des premiers textes adoptés par cette nouvelle Australie. C'est la fameuse politique de l'Australie blanche, et pour défendre ce texte au Parlement, il tient un discours particulièrement raciste.
Oui, oui, tout à fait. Ce qui est important de rappeler, c'est que il n'est pas le seul. Et que quand on pense à la Fédération de l'Australie, les sujets majeurs à l'époque, ce sont les barrières douanières entre colonies, et donc une fédération permettrait de les abaisser pour qu'en fait tout le pays, l'Australie, bénéficie du libre-échange à l'intérieur, mais avec des barrières tarifaires à l'extérieur pour développer l'industrie australienne. Donc, c'est assez intelligent. Donc, du point de vue australien, trois sujets importants, les barrières douanières, l'immigration et la défense, en fait, parce qu'au lieu d'être des petites colonies défendues, on va pouvoir avoir une armée nationale. Donc, les premières lois, mais vraiment les premiers actes législatifs du Parlement fédéral australien, c'est de mettre en place, comme vous l'avez rappelé, la politique de l'Australie blanche. Et pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent, c'est très simple. Si vous n'êtes pas blanc, vous ne rentrez pas en Australie. C'est éminemment raciste. C'est pas le seul pays à l'époque. Hein. Bon, la ségrégation aux États-Unis fait rage, l'Afrique du Sud, enfin, il y a beaucoup de pays. L'Europe va bientôt enclencher les tristes années que l'on connaît d'entre-deux-guerres. Donc, Deakin, en fait, déclare au Parlement vouloir prohiber toute immigration de couleur et parle explicitement d'assurer une Australie blanche. Parce que fondamentalement, les Australiens se voient comme des Britanniques et des Britanniques encore plus purs que les Britanniques eux-mêmes. Et donc, c'est une terminologie raciste, hein. Je ne prends pas parti. Ces mots de pureté sont des mots de l'époque qui sont bien évidemment horribles et totalement racistes. Parce qu'à l'époque, en Grande-Bretagne, commence à émigrer des migrants de toutes les parties de l'Empire. Et en fait, ce que veulent certains Australiens, en fait la majorité des Australiens à l'époque, c'est de fermer la porte aux travailleurs chinois ou d'Asie ou indiens, et donc conserver une Australie physiquement blanche. Et bien évidemment, ce qui est valable à l'extérieur est valable à l'intérieur. L'exclusion raciale qu'il veut imposer à l'extérieur, elle est aussi imposée à l'intérieur aux aborigènes. Donc, effectivement, Deakin est un des grands pères fondateurs australiens, mais comme beaucoup de personnages historiques, c'est jamais tout blanc ou tout noir. On peut parler de Jefferson aux États-Unis aussi. Voilà. Donc, il faut pas du tout l'héroïser, il faut le comprendre dans son contexte. C'est un homme britannique, blanc, qui est attaché à l'Empire et qui veut que son pays se développe, mais d'une façon... d'une culture britannique, voilà, si vous voulez.
Et d'ailleurs, bah, pour montrer que son bilan est contrasté et qu'il n'y a pas que du négatif dans tout ça, on l'a dit, donc on a un nouvel État fédéral qui ne part pas complètement de rien, puisque bien sûr, il y avait déjà des institutions qui existaient au niveau des différentes colonies, mais eh bien, il faut bien poser les bases de ce nouvel État fédéral et Alfred Deakin, il va participer à la création, vous le disiez, parmi les priorités, il y avait celle de constituer une armée nationale. On a aussi la Haute Cour de justice, qui est encore aujourd'hui la plus haute instance judiciaire du pays, un service public fédéral, et puis, alors qu'on l'a dit, il y a une politique ouvertement raciste qui est mise en place, à l'inverse, il y a quelque chose qui est sans doute une avancée parmi les plus progressistes qui puissent, et l'Australie est la première à le faire, elle donne le droit de vote aux femmes.
Oui, avec le Commonwealth Franchise Act de 1902, c'est un droit de vote et d'éligibilité, ce qui est très important également, hein, pour la majorité des femmes, mais on va retrancher assez rapidement des femmes blanches. Donc, sont exclus d'office les aborigènes et les femmes dites non européennes. Donc, il y a une restriction raciale très importante dès le début. Cependant, effectivement, l'Australie est le premier pays à accorder simultanément les droits d'éligibilité, et de vote aux femmes au niveau national. Hein, vous allez trouver des colonies ou des provinces ou des États dans d'autres pays, ou même en Australie, l'Australie du Sud par exemple, où le droit de vote pour les femmes existait déjà, mais au niveau national et fédéral, effectivement, c'est un pas en avant. Et là-dessus, il est important de rappeler qu'en fait, l'Australie se fédère et se conçoit, se crée comme nouveau pays, enfin, de leur point de vue, parce qu'il y a quand même 60 000 ans de peuplement aborigène avant. Mais si on se place du point de vue de la création de l'Australie blanche moderne, c'est pas 1789, c'est pas la Révolution américaine. Ça arrive beaucoup plus tard et après tout un tas d'expériences politiques, constitutionnelles et sociales. Donc, si vous voulez, ils ont le bénéfice de pouvoir regarder ailleurs en se disant « Ah bah ça, ça fonctionne, ça n'a pas fonctionné. » Et ils peuvent proposer des innovations à la fois sur le droit des femmes, mais aussi sur le droit du travail, par exemple, et sur tout plein d'institutions publiques qui sont créées pour soutenir ce nouveau gouvernement fédéral. Donc il y a le Public Service Act de 1902 qui crée une fonction publique fédérale. Si vous avez un État fédéral, il faut bien des fonctionnaires fédéraux également. Et donc les structures de la Nouvelle-Australie et de l'Australie dans laquelle on vit tous les deux, Grégory et moi, elles sont posées à ce moment-là, au moment de la fédération où tout est à créer. Il faut créer une haute cour, il faut créer une santé publique nationale, si vous voulez, un bureau des statistiques et de la météorologie. Enfin, il faut tout créer, il faut tout mettre en œuvre. Alors, parfois, c'est l'extension de politiques qui ont fonctionné au niveau des anciennes colonies devenues États. D'autres fois, c'est vraiment on s'assied, on crée des nouvelles politiques, des nouvelles guidelines, des nouveaux process, et puis on met en place un État fédéral. C'est assez incroyable, en fait, de se dire qu'à un moment donné, l'État fédéral australien n'existait pas. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Et Deakin a eu une place centrale dans l'établissement de ces législations en tant que, si vous voulez, ministre de la Justice.
Et sa marque, il va peut-être encore plus l'imprimer sur l'État australien moderne à partir du moment où il devient Premier ministre. Pour la première fois, ce sera en 1903. Il prendra la place donc de celui qui était un ami, Edward Barton. C'est pour ça qu'on n'a pas fait d'épisode sur lui, seulement 2 années. On s'est plutôt intéressé à son successeur. Et au-delà des institutions et des réformes, enfin c'est même pas des réformes puisqu'on part de rien, qu'il faut mettre en place, il faut dire que cette époque elle est quand même assez tumultueuse. L'une des raisons c'est que il y a 3 forces politiques de force à peu près égales à l'époque. Ça rappelle d'autres périodes sous d'autres latitudes. Et donc en Australie au début du XXe siècle, c'est les 3 grands partis. C'est d'un côté le parti protectionniste. Vous avez dit tout à l'heure que c'est la politique défendue par Alfred Deakin et c'est le leader de ce parti. Il y a le parti qui, sur le papier, a l'air d'être son exact opposé, les libre-échangistes. Et puis, il y a le parti travailliste qui, à l'époque, est déjà là. Et Alfred Deakin, il voit bien que tout ça, bah, c'est un petit peu compliqué de fonctionner. Les gouvernements sont renversés très facilement parce que personne n'a de majorité absolue. Et donc très vite, il plaide et il défend l'idée que l'Australie, c'est un système politique qui, comme en Angleterre, puisqu'il s'inspire directement de ce modèle-là, pour fonctionner correctement, il faut qu'il repose sur un système bipartisan, c'est-à-dire donc 2 grands partis qui s'alternent au pouvoir.
Oui, alors, il y a beaucoup de choses à expliquer là. Ce qui est fascinant, c'est que le Parlement australien, il est calqué sur le Parlement britannique, le système de Westminster, où vous avez généralement un gouvernement et son opposition. Et c'est assez rare de voir 3 ou 4 grandes parties se partager le Parlement. En l'occurrence, c'est ce qui se passe en Australie parce que vous avez des gens qui sont divisés sur un certain nombre de sujets. Ce qui fait que vous avez un Parlement qui doit fonctionner sur, normalement, une bipolarité et qui se retrouve avec 3 gros partis, un peu ce qu'on voit en France en ce moment avec un éclatement de l'Assemblée nationale, ce qui rend toute coalition assez faible et non pérenne. Et donc, si vous voulez, le début, les 10 premières années des gouvernements australiens, c'est un peu comme la 4e République en France. Vous allez avoir un gouvernement qui va durer 200 jours ou puis un an et demi. Enfin, ça tombe assez rapidement. Et donc, ce qu'il va essayer de faire, Deakin, et ce qu'il va faire de façon assez, assez efficace, c'est d'assembler ce qu'on appellerait aujourd'hui la droite contre la gauche. Parce qu'à l'époque, lui, il est donc protectionniste, mais vous pouvez être protectionniste de gauche ou protectionniste de droite. C'est pas structurant que de vouloir des tarifs douaniers, si vous voulez, en termes politiques, sociales ou autres. Et donc, c'est que Deakin se dit, bon, si on veut un pays stable, il faut un gouvernement stable qui ne puisse pas être renversé. Et donc, il faut essayer de travailler vers cette bipolarité. Donc, il s'associe avec d'autres personnes qui sont effectivement sur le papier, comme vous l'avez rappelé, ennemis, puisque les protectionnistes doivent s'allier aux anti-protectionnistes, donc on se demande comment ils travaillent. Mais en fait, ce qui les réunit, c'est la peur de la gauche qui s'implante de plus en plus et qui est de plus en plus efficace. Il faut rappeler que le début du XXe siècle, c'est quand même le grand moment des mouvements de gauche et de la peur des ouvriers, hein, pour les gens qui ont du bien. Et donc, protectionnistes et anti-protectionnistes se disent, qu'est-ce qui est plus important, les barrières douanières ou la paix sociale? Et donc, ils s'allient pour pouvoir avoir ce contre-pouvoir contre une gauche qui émerge en Australie et qui est forte. Le troisième premier ministre australien est de gauche, Chris Watson. Le cinquième aussi, enfin le cinquième, septième et cinquième personne, Andrew Fisher. Donc on voit l'émergence du parti travailliste, du parti de gauche d'aujourd'hui, dès le début de la fédération australienne.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On revient dans quelques jours pour entendre la dernière partie de cet épisode consacré à Alfred Deakin. On verra qu'il fut l'un des tout premiers à porter l'idée d'une union des droites face aux travaillistes qui, eux, sont unis dès leurs origines. Et on verra bien que cette union ne fonctionnera pas et qu'elle marquera quasiment la fin de sa carrière politique. Mais tout ça, eh bien, on en reparlera d'ici quelques jours. D'ici là, portez-vous bien.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire. Je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire. Il faudrait tout oublier.
Et c'était la mythique Angèle, chanteuse belge Angèle, et tout oublié. Voilà, c'est tout pour notre émission ce dimanche. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon après-midi à tous. Je vous rappelle également que toutes nos émissions et tous nos podcasts sont disponibles sur notre site internet sbs.com.u/french. Et bien entendu, je vous rappelle également tous nos films disponibles, les films en français disponibles sur la plateforme d'SBS On Demand, sbs.com.u/on-demand. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.